Sauvageon, est-ce que le compte est bon? Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au départ à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais le choix.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Encore pire, si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer. Est-ce que je demande ma liberté me soit restituée?
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit ont de s'échapper de la prison.
Je dois m'évader, ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Vous écoutez Radio Kaleidoscope sur 97 FM et www.radio-kaleidoscope.net. Et c'est l'émission Les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles, c'est une émission contre la tôle et contre toutes les formes d'enfermement. Et c'est tous les troisièmes mercredis du mois de 19h à 20h sur Radio Kaleidoscope. Alors je vous redonne d'abord les contacts si vous avez envie de nous écrire pour nous faire des remarques, des critiques ou nous faire passer du courrier. Alors vous pouvez nous écrire soit par courrier à l'adresse Les murs ont des oreilles, Radio Kaleidoscope, BP 422, Grenoble 38018, je répète. Les murs ont des oreilles, Radio Kaleidoscope, BP 422, Grenoble 38018. Ou vous pouvez aussi nous écrire par mail à l'adresse lesmurs@riseup.net, les murs tout attachés. @riseup.net. Voilà, alors aujourd'hui, on va vous parler de différentes choses pendant cette émission. On va commencer par un peu des brèves de l'actualité de ce qui s'est passé en prison et autour des prisons dans le mois passé. Ensuite, on va continuer de s'intéresser à la thématique de la santé en prison qu'on avait déjà abordé dans d'autres émissions et qu'on va donc continuer cette fois-ci. Et après ça, on va revenir sur la lutte contre le Notav dans le Val de Suse en Italie. Et ensuite, on va s'intéresser à la politique de tolérance zéro qui est mise en place à Saint-Nazaire en Bretagne. Et après, en deuxième partie d'émission, on va revenir sur le cas de Goncalves, qui est l'ancien directeur de la maison d'arrêt pour femmes de Versailles, et avec des lectures de lettres d'une personne donc, qui a été incarcérée dans cette prison. Et on va finir en vous parlant d'un projet qui s'appelle Du son contre la prison. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec des brèves.
Alors, pour commencer, des infos qu'on a eues par le biais du Progrès, donc le torchon local autour de Lyon, et qui parle plus précisément de de Corba en disant que récemment, il y a eu plusieurs fois des personnes qui ont tenté d'envoyer des colis à travers, enfin par-dessus les grilles, et à des moments, notamment dans, deux fois, des gens qui sont passés, enfin qui se sont fait arrêter par les gendarmes et qui sont passés en procès après. Et à un moment, la grille qui a été, qui aurait été escaladée par un mineur. Du coup, on avait envie de parler de ça pour dire que le fait que les moyens de sécurité y soient très développés autour de cette prison, ça n'empêche pas que des gens essayent de les contourner. Et ça nous réchauffe le cœur. Et on espère qu'il y a aussi des gens qui ne se font pas attraper dans des moments comme ça.
Et du coup, pour préciser un petit peu ces actions, en fait, on voulait parler d'une action qui s'est passée autour de l'EPM de mes yeux, donc dans la nuit du 13 au 14 février dernier. Et donc, il y a deux personnes qui sont décrites comme des adolescents par la presse, qui ont été attrapées au moment où ils allaient jeter des colis par-dessus le mur d'enceinte. Et en fait, ces colis contenaient sept téléphones portables, des chargeurs, des briquets. Donc, ils se sont fait attraper à ce moment-là. Et ils ont eu des perquisitions chez eux après, après ça. Donc, il y en a un qui n'est pas poursuivi. Et le deuxième qui est poursuivi parce qu'il faisait apparemment pousser des plants de cannabis chez lui. Voilà.
On a aussi l'info que il y a la semaine dernière trois personnes qui sont passées en comparution immédiate au tribunal de Lyon pour on leur reproche d'avoir incendié des matelas au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, donc centre de rétention administrative, l'endroit où on enferme les gens parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc ils ont pris 6 mois de prison avec sursis. On rappelle que l'été dernier, il y avait un incendie assez énorme qui avait ravagé une bonne partie des locaux du centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry, que ça avait causé des dommages matériels assez importants et que ça avait occasionné la fermeture d'une partie des locaux. Donc voilà, on apporte notre solidarité aux gens qui se battent contre toutes les prisons.
Pour continuer, une brève qui nous vient de Suisse. En fait, donc il y a eu une évasion de 3 jeunes d'un foyer d'éducation. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu. Donc ça, c'était début mars. Vers le 4 ou 5 mars, il y a eu donc un premier jeune de 15 ans qui s'est évadé le dimanche 4 mars, donc vers 17h. En fait, c'est pendant une partie de foot. Il a tout simplement escaladé la barrière de sécurité qui faisait 2,20 m et il s'est barré. Et en fait, donc après, il y a eu un peu plus de tension à l'intérieur du foyer. Les autres pensionnaires étaient un peu plus agités, on nous décrit dans la presse marchande. Et donc, ils ont été séparés. Et alors, à ce moment-là, il y a deux autres jeunes de 17 ans qui ont réussi à prendre la fuite. En fait, il y en a un qui a menacé un gardien avec un couteau, qui l'a forcé à ouvrir la porte. Et donc, ils se sont barrés à deux. Donc là, pour l'instant, ils sont recherchés. On ne sait toujours pas s'ils ont été arrêtés ou pas, mais a priori, plutôt pas. Et juste pour préciser, en 2008, dans ce foyer d'éducation, donc à Aarburg, il y avait déjà eu une évasion et là, ça avait été fait grâce à un câble électrique. Donc la personne qui s'était barré avait pu descendre le mur de 7 mètres de l'ancienne forteresse en passant par une meurtrière. Donc, on peut encore applaudir.
Après cette nouvelle plutôt chouette, une autre qui l'est beaucoup moins, On a appris toujours par la presse que à la fin du mois de février, il y a un prisonnier qui s'est suicidé, qui a été retrouvé mort dans sa cellule à la tôle de Saint-Quentin-Fallavier. Apparemment, il aurait laissé dans sa cellule une lettre où il explique qu'il est désespéré parce que l'administration pénitentiaire lui refuse la visite de son fils au parloir. Et du coup, c'est l'occasion de revenir sur le fait que l'administration pénitentiaire a vraiment tout le pouvoir de choisir si elle permet aux prisonniers de continuer à maintenir les liens qu'ils ont avec les personnes à l'extérieur ou pas, en accordant ou pas des permis de visite, que c'est une forme de pression qui est vraiment dégueulasse parce que ça fait, que c'est vraiment une forme de chantage et de destruction psychologique de la personne en la coupant vraiment de ceux qui peuvent lui faire du bien. Cette violence de refuser des permis de visite à des gens qu'on peut voir, et ben ça peut aussi faire vivre des choses qui sont super dures et qui mettent dans des conditions telles que le suicide, ça apparaît parfois comme une possibilité d'échapper à ce qui est vécu de manière hyper dure en tôle, et que c'est qui a besoin d'être vraiment fort en fait pour survivre à ce qui peut se passer dans la prison. Pour continuer sur Saint-Quentin-Fallavier, on a appris aussi qu'il y avait des tabassages par des matons et que les tentatives de casser psychologiquement les détenus qui s'écrasent pas, ça peut aussi passer bien évidemment par du mitard, et que en fait les cellules de mitard, elles sont en nombre limité, et que du coup quand il y a plusieurs personnes qui ont en même temps des peines de mitard à effectuer, et ben s'il y a une personne qui du coup la cellule de mitard, elle doit être disponible pour pouvoir servir de punition pour une personne que la paix veut casser, et on donne cette info par rapport à une personne notamment qui est en train de se manger du mitard à la suite sans cesse, qui après y avoir passé 25 jours sort une journée et s'y retrouve à nouveau le lendemain, et que c'est une manière parmi d'autres qu'a l'administration pénitentiaire pour casser les personnes qui résistent, et donc à nouveau qu'on apporte notre solidarité à ceux qui lâchent pas. Voilà. Donc c'est terminé avec les brèves. On va passer maintenant à la thématique de la santé. Donc on en a parlé un peu les fois précédentes. On a envie d'avoir un peu des infos sur ce qui se passe en lien avec la santé, plus précisément à Vars. Et donc on en fait un peu un appel aux gens qui nous écoutent. Si vous avez des infos que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à nous les faire passer, qu'on puisse les retranscrire. Voilà quelques infos qu'on a eues récemment et qui dépassent d'ailleurs le domaine spécifique de la santé à Vars. Donc on a appris par exemple qu'à Vars, les douches sont limitées à 2 seulement par semaine, ce qui veut dire que dans des moments par exemple où il fait très chaud, pour des gens qui feraient du sport de manière régulière, le fait d'avoir des douches comme ça limitées à 2 par semaine, ça peut vite être problématique. Et puis que d'une manière générale, le rapport qu'on a chacun et chacune à l'hygiène, c'est un rapport assez personnel, qu'il y a des gens qui aiment bien pouvoir se doucher hyper souvent, d'autres un peu moins, mais bon, ça c'est vraiment à l'appréciation de chacun et chacune. Et là, en fait, le fait que ce soit quelque chose qui est complètement décidé par un règlement, ça dépossède complètement la personne du rapport qu'elle peut avoir à son corps, puisque ça dépend uniquement de l'administration. On nous a dit aussi que les vitres du mitard, elles étaient cassées, ce qui veut dire que dans les moments où il fait froid à l'extérieur, les gens qui sont au mitard, ils caillent à fond aussi. Pour continuer sur ce qui se passe au mitard dans le rapport au corps, par exemple, quand on est au mitard, et donc on rappelle que ça peut être parfois jusqu'à plus, enfin que ça peut aller parfois jusqu'à 45 jours d'affilée, on n'a pas la possibilité de se raser, de se couper les cheveux, et que que ça peut être super chiant pour des gens. Les rendez-vous, notamment avec le dentiste, ça peut prendre des mois. Que le dentiste passe uniquement à certains moments, qu'il faut faire une demande écrite pour le rencontrer. Et que si, donc il y a eu par exemple le cas d'une personne qui avait demandé à voir le dentiste et qui n'était pas dans sa cellule au moment où le dentiste est passé, il était au sport. Mais il n'a pas été prévenu, donc ça fait qu'il n'a pas pu avoir son rendez-vous et se faire soigner, et qu'il doit attendre encore des semaines avant le prochain passage. Donc les rendez-vous avec les intervenants de santé, c'est aussi au bon vouloir de l'administration pénitentiaire. Les médecins à Vars font des permanences seulement 2 jours par semaine, ce qui veut dire que si en dehors de ces 2 jours, des prisonniers ont besoin de soins ou de médocs, c'est pas possible. Il faut faire une demande écrite, ne serait-ce que pour avoir juste un doliprane. Donc c'est des procédures administratives qui sont hyper chiantes et qui font aussi que pour les gens qui sont pas super à l'aise avec l'écrit, ça restreint complètement cet accès-là. Les soins, ils sont faits à la va-vite. On a eu, par exemple, l'histoire d'une personne qui s'est fait une entorse et à qui le médecin n'a pas prescrit de radio du tout. Donc, en fait, à l'extérieur, quand on se fait une entorse et qu'on souffre et qu'on a l'impression que ça peut être grave, si on est en lien avec un médecin, qu'on a l'impression qu'il fait ça un peu à l'arrache, on peut décider d'aller voir un autre médecin. Mais là, quand on est en tôle, c'est pas le cas, en fait, parce que y a un médecin et puis basta. Et puis, en plus, une fois qu'on l'a vu, si on a envie que les examens soient un peu plus approfondis, à nouveau, c'est des procédures hyper longues pour pouvoir avoir un autre rendez-vous. On ne peut pas l'avoir comme ça. Et puis, on a eu aussi une histoire assez hallucinante. À Vars, la prison propose à certains prisonniers de pouvoir effectuer une formation en interne d'assistant dentaire qui permettrait d'exercer à l'intérieur assister donc le dentiste. À des prisonniers qui n'ont aucune connaissance préalable dans tout ce qui concerne les soins dentaires. Et donc, ça veut dire que pour les gens qui se font soigner de cette manière-là, c'est quand même bien à l'arrache, parce que les connaissances qui sont transmises dans le cadre de cette formation, elles sont minimales, et ce n'est pas une formation qui est reconnue dehors et qui permet d'avoir des équivalences, d'une part. Et d'autre part, ça veut dire que c'est à nouveau, une fois de plus, tout bénef pour l'administration pénitentiaire, qui n'a pas besoin de payer un assistant dentaire avec les salaires qui sont en vigueur à l'extérieur, puisque, comme on le sait, les prisonniers qui travaillent à l'intérieur sont payés au rabais, des queues de cerises. On a trouvé cette info complètement folle. Et vous avez envie de nous écrire pour nous en dire plus, on est intéressé pour avoir des précisions et des infos. Pour finir, le rappel que tout est conditionné à l'intérieur comme à l'extérieur, mais plus encore par l'argent, puisque tout doit être cantiné, notamment des plaques électriques, des radios qui permettent de prendre des nouvelles de l'extérieur, de pouvoir se faire à manger autre chose que la bouffe dégueulasse qui est servie par l'administration pénitentiaire. Ça va dépendre de l'argent que le prisonnier peut avoir, soit par ses propres moyens, soit avec des mandats qui lui sont envoyés par ses proches. Ça concerne pas uniquement la nourriture, en fait, c'est aussi l'équipement de base. Pour finir, Je voulais revenir sur un truc qui avait été dit dans une lettre d'un détenu qui parlait des soins dans la tôle et du fait que lui, il refusait de prendre les vitamines et les cachetons qui étaient proposés par les médecins en disant en fait que lui, il ne voulait pas de ces trucs-là, qu'il n'avait pas confiance dans ce que les médecins voulaient lui donner. Et il disait dans sa lettre, si vraiment notre santé, c'est la préoccupation des médecins qui travaillent en tôle, et ben ils ont qu'à s'arranger pour qu'on puisse avoir une nourriture correcte avec des fruits et des légumes. Et les vitamines, on les aura comme ça et pas en bouffant leur cacheton de merde. Voilà. Donc pour terminer, on va écouter un montage qui a été fait d'après une interview qui était parue dans L'Envolée, donc c'est un journal anticarcéral. Et cette interview, elle avait été faite, donc c'est des propos qui ont été tenus par Laurent Jacqua. Donc c'est quelqu'un qui est resté vraiment très longtemps en tôle et qui a beaucoup écrit là-dessus, depuis l'intérieur, sur ce qu'il vivait et notamment par rapport à la santé. Parce qu'il avait besoin de soins particuliers et, auxquels il n'avait pas accès. Et donc, dans ce montage qu'on a fait à partir d'une interview qu'il donnait dans L'Envolée, il revient un peu sur comment lui, il analyse et comment il capte en fait, le rôle de la médecine à l'intérieur de la tôle. Voilà.
Dans les prisons françaises, personne n'est soigné. Au niveau psychiatrique, au niveau médical, à tous les niveaux, tout ça, c'est du placebo. Ils n'ont ni le matériel, ni les moyens, ni le personnel, et ils racontent que tout va bien. Dans les prisons, c'est une hécatombe. Que ce soit en centrale ou dans les maisons d'arrêt, avec la surpopulation et tous les problèmes de soins, les gens ne peuvent pas être soignés. La population pénale est abandonnée totalement, c'est clair et net. Les toubibs voient les gens qui viennent à l'infirmerie. Ils parlent de leurs petites visites, des petits soins qu'ils donnent, mais l'intimité de la prison, la vraie souffrance de la prison, qui la connaît à part les prisonniers ? Eux, ils ont une idée de la souffrance très éloignée. Ils la connaissent pas. Il n'y a que le détenu qui connaît la souffrance de l'enfermement, du corps dans l'enfermement. Le rapport à la prison, il est physique avant d'être intellectuel. Parce que c'est avant tout ton corps qui est prisonnier, qui ressent la violence des murs et il somatise. J'ai vu des mecs en bonne santé, détruits par la prison. Et tu le sais que lorsque tu le vis. Ils disent « C'est vrai, il y a des problèmes, mais c'est une population fragile, c'est des malheureux. » C'est vrai, c'est des pauvres, mais c'est toujours condescendant. C'est jamais la faute de l'administration, de l'enfermement. C'est toujours la faute du détenu s'il est malade, s'il se suicide. La prison tue et elle rend malade. La prison, elle est radioactive. C'est Tchernobyl. Une fois à l'intérieur, t'as tout qui se barre. Les dents, les cheveux. T'as les cheveux blancs qui arrivent, les femmes ont plus leurs règles. La totale. Normal, c'est une souffrance. Les gens se rendent pas compte. 23 heures par jour en cellule, et ça pendant des années. C'est une torture. En plus, la nourriture suit pas. Faut voir ce qu'on bouffe au placard. Les mecs n'ont pas une thune, et il y en a beaucoup, avec l'augmentation de la population pénale, qui peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas de travail. Les mecs n'ont pas une thune, ils bouffent la barquette, et au bout de 6 mois, ils perdent tout, leur santé, etc. Et quand ça dure des années, vous savez comment ça se passe, une extraction pour un DPS ? Moi, j'ai eu une opération pour une hémorragie. Je devais être opéré de la jambe. Déjà, ils te foutent à poil, te passent à la fouille, te mettent les entraves aux pieds et aux mains, et on part en convoi jusqu'à l'hôpital. Une fois arrivé, tu dois leur expliquer tes problèmes de santé, donc le secret médical, il va faire une promenade. Dans les hôpitaux où on envoie les détenus malades, les médecins ne respectent rien. C'est les détenus, alors ils en ont rien à foutre. Déjà, ils ne t'enlèvent pas les entraves pour les auscultations, et quand tu passes un scanner, ils t'attachent avec un truc en plastique, alors que t'es déjà attaché. Ils ont même prévu ces trucs en plastique pour pas que ça déconne dans l'IRM. Ils veulent t'attacher, te soumettre, malade ou pas, jeune ou vieux, les femmes enceintes, etc. Les femmes enceintes qui accouchent avec des menottes, c'est arrivé. Quand j'ai eu l'hémorragie, j'étais en robe de chambre. Plein de sang. Je faisais un point de compression. C'est Nino qui a appelé les secours. Enfin, il a appelé le Mirador pour qu'il appelle le premier surveillant, pour qu'il appelle les pompiers. Nino m'a parlé pendant une heure devant ma porte parce que j'étais allongé. Même les pompiers, quand ils se sont pointés, ils ont dit « Faut qu'on parte !» Les matons ont répondu « Y a pas l'escorte, on peut pas. »« Mais attendez, il fait une hémorragie !» Je suis resté une heure devant ma porte, puis ils m'ont sorti. Nino demandait « Hey, ça va Lolo ?» Ils m'ont mis le truc à oxygène. J'ai attendu. Ils n'avaient pas de brancard. Tu vois le bordel ? Résultat, j'ai attendu l'escorte 2h30 pour partir à l'hôpital. Avant de rentrer dans l'ambulance, ils m'ont mis les entraves aux pieds. J'ai dit au maton « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu vois pas ?» C'est le règlement. Et tout fonctionne comme ça. Heureusement que c'était pas une hémorragie de l'artère fémorale. Sinon, j'étais mort. Alors une crise cardiaque ou autre. Le sécuritaire prend toujours le pas sur la santé. Et dans tous les domaines. Après, on m'a expliqué qu'un des condés allait venir dans la salle d'opération en tenue stérile, avec un taser, au cas où je me réveillerais pendant l'opération et que je prendrais la fuite. Je me suis dit, quand je vais être endormi, il va m'en foutre un coup. Extraction, hôpital, consultation, pour tout ça, les surveillants sont là. Les médecins deviennent complices de l'administration, acceptent l'inacceptable et deviennent des matons, des flics. Et on est à l'hôpital civil. Tu sais à quoi tu le vois ? Quand il ne t'enlève pas les menottes. Souvent exprès, j'arrivais devant le toubib avec les menottes, je le regardais et je demandais « On les enlève ?» Au lieu de me répondre, il se tournait vers le chef d'escorte. Des DPS, donc dangereux. C'est non. C'est un accord tacite. L'article 10 dit qu'un médecin ne doit pas intervenir sur une punition ou une peine. Le médecin qui signait pour dire que j'étais en état d'aller au QI, je lui disais « Et l'article 10 ?» Il signait quand même. Pire encore. À un moment donné, quand j'étais vraiment malade, hospitalisé, j'étais HS, un spécialiste de l'extérieur vient me consulter. Je lui demande un certificat médical pour me faire sortir. Il le fait en disant que mon état de santé est incompatible avec les conditions de l'isolement. Je le présente au directeur qui ne dit rien. C'était à Nantes. J'attends au QI et il me ramène un certificat d'un autre médecin, le docteur Robert. Il fait des conférences sur les pauvres malades en prison. Il veut sauver l'humanité. Mais moi, je me rappelle qu'il a fait un contre-certificat pour que je reste à l'isolement, alors que j'ai failli mourir d'une pneumocytose. La complicité, c'est ça.
Voilà donc pour ce témoignage sur les conditions de santé en prison. Et on va enchaîner sur d'autres témoignages de personnes qui sont incarcérées en Italie. Mais d'abord, on va revenir sur un peu le contexte de ces arrestations et ces incarcérations. Du coup, donc c'est des personnes qui participent à la lutte qu'on appelle NOTAV, qui est une lutte assez forte et populaire en Italie depuis maintenant plus de 20 ans. Donc en fait, c'est une lutte de gens qui s'opposent à la construction d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse, donc d'une ligne TGV. TGV en italien, c'est TAV, et c'est pour ça que ça s'appelle le NOTAV. Donc c'est le TGV qui irait de Lyon à Turin en traversant en France... une partie de la Savoie et du coup le Val de Suse, donc qui est cette partie-là de l'Italie entre la frontière française et Turin. Il faut savoir que c'est une vallée qui est déjà pas mal encombrée parce qu'il y a déjà une autoroute, deux routes nationales et une voie de chemin de fer qui est déjà existante. Et qu'en plus de ça, on veut donc faire passer une ligne de TGV en plus, que du coup les gens contestent cette ligne de TGV, d'une part en disant que c'est une ligne qui est inutile parce qu'elle servira juste pour les élites, en fait, pour que les puissants de ce monde puissent se rendre plus rapidement de Lyon à Turin et de là à l'Europe de l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest et vice-versa. Et que c'est aussi une catastrophe environnementale et humaine puisque ça veut dire détruire des pans entiers de montagnes et détruire aussi toute la vie telle qu'elle est organisée dans cette vallée. Et que en plus, donc c'est aussi toute une logique d'aménagement du territoire qui est contestée avec ce culte de la technologie et de la vitesse en permanence. Et donc du coup, voilà, ça fait plus de 20 ans que des gens luttent contre ce projet-là dans le Val de Suse en Italie. La lutte s'est un peu accélérée là récemment, notamment depuis le 3 juillet 2011, où il y a eu une grosse manif avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont venues de toute l'Italie, même de France et d'autres pays, pour protester contre du coup, le début des chantiers dans cette zone-là. Et il y a eu notamment des affrontements entre des manifestants et des flics, assez violents, ça a duré quand même plusieurs heures et tout ça. Et du coup, suite à ça, il y a eu une grosse campagne de criminalisation du mouvement faite par le pouvoir italien et donc évidemment relayée par la presse dominante, où voilà, on accuse les méchants casseurs, black bloc infiltrés, machin, qui seraient venus pour se livrer à des actes de vandalisme dans la vallée. Et du coup, suite à ça, il y a eu des enquêtes policières qui ont été lancées et qui ont abouti le 26 janvier 2012 à plusieurs interpellations et perquisitions dans différents lieux, dans différentes villes en Italie. Suite à ça, il y a eu 30 personnes qui ont été incarcérées, dont 11 qui sont toujours emprisonnées. Et en réaction donc à cette opération policière complètement folle, il y a eu donc le 25 février 2012 une grosse manif de protestation pour réaffirmer un rapport de force et aussi la solidarité avec les personnes qui sont emprisonnées et aussi dans un truc de dire que l'État essaye de diviser les gens en faisant croire qu'il y a d'un côté des méchants casseurs et de l'autre des gentils manifestants qui seraient plus crédibles et légitimes. Et que là, clairement, c'était un truc de dire, en fait, on est tous et toutes impliqués dans cette lutte et que nous, on ne va pas faire cette distinction-là que l'État, il essaye de mettre en place. Et du coup, il y a une grosse manifestation assez massive à ce moment-là.
Peut-être juste pour préciser, parce que en fait, la résistance contre la mise en place de ce projet, elle se fait de différentes manières et qu'il y a des moyens de... En fait, que les manifestations, par exemple, ce n'est pas juste de la protestation, c'est aussi essayer d'empêcher concrètement que les travaux, ils avancent et que les moyens d'empêcher ça, des fois, c'est des moyens qui sont légaux et des fois non. Et du coup... On parle de criminalisation, mais en fait, effectivement, c'est cette forme de résistance, elle ne suit pas les codes légaux.
Ouais, et que du coup, notamment donc, fin février, là, dans les manifs et les occupations qu'il y a eu, donc il y avait aussi l'idée d'occuper et d'empêcher le chantier de se mettre en place, donc le chantier pour creuser les fondations du TGV. Et donc, deux jours après la manif du 25 février, donc le 27 février, il y a eu une grosse opération policière pour dégager donc les gens qui occupaient le terrain de manière assez violente. Et donc, pendant cette opération policière-là, il y a un manifestant donc, qui s'appelle Luca, qui, pour affirmer qu'il ne laisserait pas les policiers le dégager comme ça, et aussi pour en essayant quand même de fuir la charge policière, est monté sur une ligne à haute tension. Et donc il a été poursuivi par les flics qui apparemment ont fait un peu n'importe quoi dans cette manière de gérer cette situation un peu de danger quoi. Et du coup donc Luca il s'est pris un arc électrique et il est tombé de 15 mètres de haut depuis cette ligne à haute tension là. Et du coup voilà, suite à ça il y a eu donc plein d'actes de solidarité en Italie et aussi en France. Et dans des trucs de dire, en fait, mais c'est... Enfin, jusqu'où ils sont prêts à aller, en fait, pour faire passer un TGV, juste limite à... Enfin, clairement, s'en foutent de tuer des gens et tout ça. Et du coup, suite à ça, donc, il y a eu des actes de solidarité beaucoup en Italie et aussi en France. Donc, autour de nous, dans la région, il y a eu des trains qui ont été bloqués en gare de Lyon. Il y a eu un incendie sur une installation électrique pas loin de la gare de Chambéry. À Grenoble, il y a eu une entreprise... Donc qui participe au chantier d'une Otave qui a pris feu aussi la semaine dernière, je crois. Et voilà, du coup, plein d'actes de solidarité. Et aussi dans d'autres villes de France et d'Italie et du monde entier, il y a eu des actes de solidarité qui sont mis en place.
C'est toutes des informations qu'on peut retrouver en consultant, par exemple, Indie Media Grenoble. Ouais. C'est des infos qui sont accessibles.
Indie Media Grenoble, c'est http://grenoble.indiemedia.org. Et aussi sur le site Jura Libertaire, il y a pas mal d'infos. Donc c'est juralib, tout attaché, juralib, noblogs.org.
Donc en fait, depuis ce 26 janvier où beaucoup de personnes ont été arrêtées, il y a pas mal de lettres qui arrivent à sortir. Donc même s'il y en a qui sont quand même bloquées apparemment de l'intérieur. Et donc ces lettres sont traduites et on les trouve aussi sur des sites internet d'infos alternatifs comme on vient de citer. Au passage, on peut remercier le travail des traductrices et des traducteurs parce que c'est hyper important en fait de pouvoir faire du lien avec des personnes qui parlent pas notre langue. Donc voilà, et là moi je vais lire une de ces lettres. Donc cette lettre elle date de début février et elle a été écrite par Giorgio et Tobia qui sont incarcérés près de Turin. Donc voilà. À tous les camarades, nous voulons vous faire savoir qu'hier, pendant que se déroulait le concert de soutien devant la prison, nous avons protesté contre les lourdes conditions de détention. Les détenus ont droit, selon une disposition ministérielle, à 4 heures d'air libre par jour. En fait, ce sont 2 heures au mieux qui nous sont accordées, temps pendant lequel, selon eux, les détenus devraient pouvoir se rencontrer. Il y a encore peu, durant ce temps, ils venaient ouvrir les cellules et il était autorisé de circuler dans le couloir et dans d'autres cellules. en dernier recours, ils nous font sortir de force et après un quart d'heure, nous font retourner dans les cellules que nous ne voulions pas quitter. Là, juste pour faire une petite pause, pour expliquer en gros, c'est que si tu n'es pas d'accord avec les conditions dans lesquelles ils t'autorisent à sortir et que tu veux rester dans ta cellule, et ben, ils te forcent quand même à en sortir et ils te remettent dedans un quart d'heure après, juste pour montrer que c'est eux les plus forts, quoi. Dans ces jours d'apparition du grand froid, il nous est impossible de sortir à l'air libre parce que la cour est envahie par la neige et nous ne sommes pas équipés de chaussures adaptées. Si tu ne sors pas dehors, il t'oblige à rester enfermé dans ta cellule. Hier soir, dans notre section, les conditions se sont aggravées. Au lieu d'ouvrir toutes les cellules en même temps, il nous emmenait un à un dans la cellule que nous choisissions et nous y renfermait. Lorsqu'ils nous ont rouvert, nous, Tobia et Giorgio, nous avons refusé de retourner dans nos cellules et sommes restés dans le couloir. Alors ils ont essayé de monter les autres prisonniers contre nous en leur disant que tant que nous résisterions, ils n'ouvriraient plus à personne. Après avoir consulté les autres détenus, nous avons décidé de ne pas abandonner. Après quelques menaces, ils ont appelé la Squadretta, donc sûrement ce qui correspond aux ERIS, donc des unités d'intervention spéciales des supermâtons, composé d'une demi-douzaine d'agents musclés dans le but de nous intimider. Face à notre refus de nous faire renfermer, ils ont usé de force pour nous y faire rentrer contre notre gré sans pour autant nous matraquer. Une dizaine de minutes plus tard, nous avons été convoqués par le directeur qui, sur un ton paternaliste et aimable, se lamentait sur le fait que c'était la troisième fois qu'ils avaient à utiliser ces procédés contre nous. Après lui avoir précisé que nous ne cherchions pas à avoir un traitement de faveur ni de privilège personnel, nous lui avons présenté une série de demandes pour améliorer nos conditions de détention. Le directeur nous a répondu qu'il y réfléchirait et qu'il nous le ferait savoir. Comme les banquiers cherchent à faire payer la crise aux travailleurs, en prison, on tâche de faire payer le surpeuplement aux détenus. Les fonds pour l'entretien des détenus diminuent progressivement, lessive, papier hygiénique, etc., et avec l'excuse des difficultés de gestion importantes, aggrave aussi le non-respect des normes d'hygiène et de sécurité. La lutte continue, Giorgio et Tobia. Et juste pour préciser, en fait, cette action qu'ils ont menée, donc Giorgio et Tobia, c'était en même temps qu'un rassemblement musical qui avait lieu à l'extérieur de l'atoll où ils sont. Et en fait, depuis, suite à cette contestation de l'autorité et à cette lettre, Tobia a été transférée dans une autre prison donc pour être séparée de Giorgio.
On va lire une dernière lettre en lien avec la lutte en Val de Suse. Du coup, c'est une lettre qui est parue récemment et qui a été écrite par Juan. Donc, c'est quelqu'un qui a été arrêté à Turin à l'été dernier avec une autre personne et ils sont accusés d'avoir volé 70 litres d'essence dans un bâtiment d'une société qui est proche du Val de Suse. Donc il est passé de la prison de Turin en résidence surveillée au mois d'octobre. En novembre, il a été à nouveau incarcéré pour effectuer un résidu de peine. Et à peine il était sorti fin décembre, qui s'est fait réattraper au moment des perquisitions du 26 janvier dont on parlait tout à l'heure. Et donc, après l'expulsion... dont on a parlé tout à l'heure, là, la charge de police hyper forte pour expulser un lieu précis de résistance à la continuation du chantier. Il a témoigné de sa solidarité avec un refus de remontée de promenade. Pour ça, il a été sanctionné d'un rapport disciplinaire et d'une mise en examen pour rébellion. Et donc, c'est suite à ça qu'il fait paraître une lettre pour expliquer un peu sa position sur ces faits-là. Donc là, voilà. Salut, je me nomme Juan Soroche Fernandez et j'écris ce communiqué pour clarifier ma position. Le TAV en Val de Suse est un des nombreux projets que l'État et la société mettent en chantier, comme les incinérateurs, l'urgence des déchets à Naples, la Gronda à Gênes, projet d'amplification du nœud autoroutier, les nouvelles prisons, la militarisation des sites où surgiront les grands travaux et la militarisation des rues en ville. La destruction de la terre et l'empoisonnement généré seraient déjà suffisants pour s'opposer à de tels projets. Mais en plus de la dévastation de l'environnement, La pieuvre du capital et de la domination broie les individus dans un système toujours plus contrôlé, marchandisé et mécanisé. La mise en route de ces projets, en plus d'une nocivité mortelle aussi bien physiquement que mentalement, vise à habituer les individus à subir, à tout accepter en renonçant à leurs propres capacités critiques et d'action. Ceux qui défendent ces projets mettent en œuvre d'énormes campagnes de mystification, lors desquelles notre réalité, notre présent et notre futur seront réinterprétés dans une version complètement falsifiée, afin qu'il nous semble toujours plus naturel de renoncer à la liberté et à la possibilité de s'autodéterminer. L'exploitation, la destruction et la mort sont des bases faites de sang et de souffrance dont la société s'auto-alimente. Ce sont les piliers sur lesquels elle s'érige et qu'il est nécessaire de combattre. Lutter contre ces tentacules signifie pour moi lutter contre la société qui les crée. En tant que rebelle individualiste, je ne parle au nom d'aucun mouvement, mais uniquement en partant de moi-même. Je prends part à la lutte comme tous ceux qui se l'approprient sincèrement. C'est pour ça que, la tête haute, je revendique d'avoir participé à la lutte contre le TAV et la société de manière auto-organisée, en dehors des logiques de l'État, de toute hiérarchie, avec des méthodes que j'ai pensées opportunes. Être coupable ou innocent, bon ou méchant, violent ou non-violent, sont des définitions morales qui ne m'appartiennent pas. Ce sont des concepts de la domination et des relations sociales qui les rendent acceptables comme symbole du pouvoir. Parce que je pense que l'autorité ne repose pas uniquement sur la force et les messages dictés par l'ordre étatique, mais également sur le compromis et l'acceptation de telles relations. Ma violence est une goutte d'eau dans l'océan face à celle que l'État utilise et monopolise contre le Val Souza, lors de guerres soi-disant pour la paix, dans les centres de rétention et les prisons, causant des millions de morts. Mais tout a une fin, et parfois les choses se renversent. Je ne suis pas un spécialiste de la violence. Je pense qu'on peut l'utiliser comme moyen ou méthode, mais que ce n'est pas la seule, qu'il en existe d'autres tout aussi valables. Le tract, l'action directe, les publications, l'expropriation, le concert. Tout cela individuellement ou collectivement, à chacun de voir comment, pourquoi et quand les mélanger. À ceux qui se sont toujours solidarisés sans distinction entre les bons et les méchants, une chaleureuse accolade et on se retrouvera sur les chemins infinis de la lutte. À ceux qui refusent cette pratique, cette manière de se lier les uns aux autres, qu'ils reçoivent tout mon mépris et ma haine, parce que le chemin de la liberté et la dignité est toujours individuel et ne s'associe pas aux stéréotypes et aux étiquettes. Pour la rébellion permanente, la tête haute. Voilà, on avait envie de lire cette lettre aussi parce que c'est une explication un peu précise de en fait pourquoi les gens, enfin en tout cas pourquoi cette personne s'est impliquée dans cette lutte-là, c'est quoi les idées qu'il y a derrière et pourquoi en fait la prison c'est comme un passage qui est possible dans ce chemin de lutte.
Et je voulais juste revenir avant de passer à autre chose. Tout à l'heure, j'ai parlé donc de Lucas qui était tombé de 15 mètres de haut après s'être pris un arc électrique là, sur une ligne THT. Juste pour dire qu'en fait, suite à ça, il a été mis dans un coma artificiel et que je crois qu'il s'est réveillé là, il n'y a pas très longtemps. Du coup, ça va mieux pour lui. Et du coup, on voulait enchaîner avec cette idée de montrer comment la prison, c'était des fois une espèce de cases par laquelle on passe quand on appartient à des catégories qui ont le malheur de déplaire au pouvoir, soit parce qu'on est inscrit dans des luttes politiques comme dans le cas du Val-de-Suze, soit parce qu'on appartient à une catégorie sociale qui est discriminée ou qui est considérée comme dangereuse ou comme indésirable. Et un bon exemple qu'on trouvait de ça, c'était la politique dite de tolérance zéro qui a été mise en place à Saint-Nazaire, donc en Bretagne. Donc il faut savoir que Saint-Nazaire, c'est une ville où il y a une forte tradition ouvrière, puisque du coup le principal employeur de la ville c'est les chantiers navals de Saint-Nazaire où on construit des gros bateaux là, et que avec la crise ces chantiers navals là ils tournent au ralenti et que ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient ouvriers et qui se retrouvent au chômage, et qu'il y a aussi toute une tradition de lutte autour de cette classe sociale d'ouvriers depuis des années, puisque quand on est ouvrier, souvent, on est confronté à des patrons qui abusent ou des gouvernements qui font de la merde ou quoi. Et du coup, il y a une forte tradition de lutte dans cette ville de Saint-Nazaire, qui aussi a une forte tradition de solidarité, que souvent, quand les ouvriers se mettaient en grève, il y avait des fermiers du coin qui se solidarisaient, qui leur apportaient des produits. Ou souvent, il y avait donc quand les ouvriers travaillaient, par exemple, sur les chantiers navals et les femmes pouvaient travailler, par exemple, à l'hôpital ou dans d'autres usines, il y avait des trucs de se mettre en grève simultanément et de se soutenir dans la grève et tout ça. Et aussi en Bretagne, donc c'est un endroit où il y a eu beaucoup de luttes anti-nucléaires depuis les années 70 et assez régulièrement. Et voilà, du coup, il y a toute cette tradition de lutte ouvrière, populaire et bien implantée et avec beaucoup de solidarité qui existe dans cette ville. Et où en plus maintenant, donc, c'est une ville, donc, comme je disais tout à l'heure, ouvrière, mais où il n'y a plus trop de travail et beaucoup de chômage. Et il y a aussi évidemment des populations qu'on considère comme des jeunes immigrés, donc potentiellement délinquants et tout ça. Enfin, en tout cas, le discours dominant, c'est clairement de dire que Saint-Nazaire, en ce moment, ça craint. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de travail, il y a des jeunes immigrés, il y a des musulmans. Enfin, vous voyez, toutes ces catégories un peu que le pouvoir, il n'aime pas trop là. Et du coup, il y a eu cette idée de mettre en place la politique de tolérance zéro, qu'ils appellent ça. Et alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe qu'il y a une police qui est omniprésente, avec des gens recrutés parmi les meilleurs officiers de Paris qui viennent exprès pour Saint-Nazaire. Genre, il y avait un officier qui a été formé pendant les émeutes de Villiers-le-Bel et qui, du coup, est venu à Saint-Nazaire après pour tester ses nouvelles méthodes. Il y a de la mise sur écoute assez systématique de personnes dans des cas de trafic de drogue, par exemple, ou des choses comme ça. Et des rondes de la BAC dans certains quartiers et aussi des comportements hyper agressifs de la part de la police que, en fait, assez souvent, c'est la police qui provoque et que, du coup, forcément, il y a des réponses en face et que c'est bien pratique pour eux pour pouvoir mettre les gens au moins en garde à vue si ce n'est en prison. Du coup, il y a ce travail de la police-là qui est quand même assez hardcore et abusé sur une population qui considère comme délinquante ou potentiellement délinquante. Il y a un article du Figaro qui est sorti en février qui est complètement trash, où donc, ce journaliste du Figaro suit les brigades de la police de Saint-Nazaire et relate des propos sexistes, racistes, homophobes, tout ce qu'on peut craindre de la part de policiers qui dénoncent ces musulmans qui frappent leurs filles parce qu'elles n'apprennent pas le Coran, ces délinquants qui sont nés pour être délinquants. Enfin, vous voyez tous les propos horribles là, de la part des flics. Et du coup, voilà, il y a donc, la police qui fait un travail encore pire qu'ailleurs, si c'est possible, et la justice, où systématiquement les peines planchers sont requises par le parquet et sont systématiquement appliquées par les magistrats en question. Et donc tout ça, ça participe de cette logique de tolérance zéro là. Et il faut savoir quand même que donc, la maison d'arrêt la plus proche de Saint-Nazaire, c'est Nantes, et la moitié de la maison d'arrêt de Nantes, c'est des gens qui viennent de Saint-Nazaire en fait. Du coup voilà, c'est un exemple de... Et cette tolérance zéro-là, c'est un truc qui a été mis en place à Saint-Nazaire, mais que l'idée aussi, c'est un jour de l'étendre au niveau national et que les flics de Saint-Nazaire sont très fiers de leurs chiffres parce que la délinquance... Enfin, ils ont des chiffres de résultats qui sont mieux à Saint-Nazaire qu'ailleurs puisque voilà, ils ont plus de moyens et qui sont beaucoup plus trash et que aussi la justice les suit alors que peut-être dans d'autres villes, c'est plus facile de s'échapper ou de ne pas être condamné en procès ou quoi. Et en plus de ça, donc Saint-Nazaire, à côté de Saint-Nazaire, il y a un endroit qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes, où il y a également, un peu comme dans le Val-de-Suse, une forte lutte en ce moment, et depuis aussi depuis 40 ans, contre un projet d'aménagement du territoire, qui est donc un projet d'aéroport qui serait le prochain grand aéroport international de Nantes. Et du coup, en fait, la moitié de ce territoire, Notre-Dame-des-Landes, est partagée sur la commune de Saint-Nazaire et l'autre moitié sur la commune de Nantes. Et donc... quand il y a aussi des luttes politiques assez fortes sur ce terrain de Notre-Dame-des-Landes, eh ben, il se trouve qu'il y a régulièrement des militants qui passent en procès pour avoir participé à des manifestations, pour s'être opposés physiquement à un chantier, ou pour avoir, par exemple récemment, repoussé des flics hors d'un rassemblement, ou juste pour avoir s'être rassemblé devant un tribunal pendant un procès, ou des choses comme ça, et que ben, la politique de tolérance zéro, elle s'applique aussi à ces gens-là. Et que donc là, le dernier exemple en date, ça a été deux personnes... qui passait en procès le 21 février pour avoir repoussé un flic en civil d'un rassemblement en disant « mais en fait, tu n'as rien à faire là, tu t'en vas ». Et du coup, ces deux personnes sont passées en procès et il y a une personne qui s'est pris 12 mois de prison avec sursis, plus 2 mois de prison avec sursis pour refus d'ADN, plus 1000 et quelques euros d'amende, parce qu'évidemment, le policier a demandé des dommages et intérêts parce qu'il était traumatisé de s'être fait pousser en dehors d'une manif. Et la deuxième personne qui était reconnue complice, c'est elle aussi prise 1000 euros d'amende. Voilà. Et aussi pour dire que la première personne donc, qui s'est pris du sursis était considérée comme en récidive puisqu'elle avait entarté un membre du conseil général du coin il y a un an. Et voilà. Du coup, c'est le fonctionnement de la justice à Saint-Nazaire qui est pas beau à voir, qui est encore plus craignos peut-être qu'ailleurs et qui joue dans cette logique de criminaliser tout ce qui est un peu déviant par rapport au pouvoir et d'envoyer le plus possible de monde en prison. Et voilà, du coup, on avait envie de revenir là-dessus et aussi de réaffirmer notre solidarité avec les personnes à Notre-Dame-des-Landes et toutes les personnes qui sont concernées par cette politique-là. Et aussi, on voulait passer maintenant un petit jingle donc, à Notre-Dame-des-Landes. Donc, c'est un endroit où il y a pas mal d'occupations pour empêcher ce projet d'aéroport de se faire. Et il y a un appel à une grosse manif si un jour, parce que ces occupations-là vont finir par se faire expulser. Et donc, il y a un appel à... réoccuper les terres après expulsion, le quatrième samedi après expulsion. Et donc, il y a un petit jingle qui parle de ça.
vient de nous expulser, nous, on revient.
À Notre-Dame-des-Landes, dans un bocage à 30 km de Nantes, la mairie et le conseil général du Parti Socialiste veulent construire un aéroport.
Mais depuis 40 ans, la population résiste à ce projet.
Et depuis plus de 2 ans maintenant, des gens s'installent illégalement sur les terres réservées au projet d'aéroport.
Dans un monde qui nous pousse à aller toujours plus vite, entre des espaces de plus en plus uniformisés. Dans un monde qui voudrait maîtriser tant les espaces que ce qui s'y passe. Dans un monde qui voudrait faire de nous des individus prévisibles et rentables.
Alors que d'un côté, on déplore la crise et le manque d'argent, de l'autre, on se lamente sur le surplus d'émissions de CO2 et la destruction de la planète.
Ce serait à chacune d'être responsable et de se serrer la ceinture.
Mais les projets démentiels, eux, sont plus que jamais d'actualité.
Réacteur EPR.
Ligne à grande vitesse.
Aéroport.
Gaz de schiste.
Et urbanisme galopant.
Rencontre de plus en plus de résistance.
Mais politiques et entrepreneurs sont têtus. À Notre-Dame-des-Landes, s'ils viennent nous expulser, nous reviendrons.
Le 4e samedi suivant les expulsions.
Contre l'aéroport et le monde qui va avec.
Grande manif de réoccupation. Pour plus d'infos sur la lutte ainsi que les dates et lieux des manifestations, rendez-vous sur le site zad.nadir.org. zad.nadir.org.
Voilà, alors on va enchaîner avec un truc dont on a pas mal parlé dans les médias officiels ces derniers temps. C'est-à-dire le scandale de la liaison entre l'ancien directeur de la maison d'arrêt des femmes de Versailles, donc Goncalves, et une des détenues, qui aurait, du fait de cette liaison, bénéficié de traitements de faveur, et plus particulièrement, qui aurait reçu de l'argent et une puce de téléphone portable. Donc on voulait revenir un peu sur cette espèce de scoop-là, parce que ça nous a pas mal énervé et qu'on avait envie d'en dire bien d'autres choses que ce qui en a été dit à la télé et à la radio. Donc plus précisément, en fait, ce fameux contrôleur général des lieux de privation de liberté, dont on a déjà parlé à d'autres moments, a reçu à l'été 2010 des lettres de détenus qui parlaient plus précisément de la situation de la maison d'arrêt de femmes de Versailles. Et il a fait une visite là-bas. Au terme de cette visite, il a constaté que plusieurs détenus avaient bénéficié de traitements de faveur. Donc ça, c'est ces termes que je reprends. Et donc suite à ça, le directeur Goncalves, il a été suspendu de ses fonctions. Et récemment, il est passé en procès. Il a été condamné le 15 février à 2 ans de prison, dont un en ferme. Et il a évidemment fait appel de ce jugement. Donc il a été très largement interviewé dans les médias. Et notamment, il a donné une interview complètement imbuvable, dégueulasse sur Europe 1, qu'on passera pas. Et ce qui revient assez souvent dans l'analyse courante qui est faite autour de ces faits divers, c'est que ce petit Goncalves serait un pauvre directeur, une victime aveuglée par l'amour et manipulée. Et donc la pauvre petite victime aveuglée par l'amour et manipulée a quand même sorti un livre pour parler de son histoire. Et il a été invité sur les différents plateaux radio et télé pour faire pleurer les ménagères. Et évidemment, nous ne le plaignons pas. Donc on revient sur cette histoire pour lui donner un autre éclairage. En effet, pendant l'été 2010, il y a plusieurs lettres qui ont été écrites par Kaoutard, qui était incarcéré là-bas, et qui sont parues dans un journal qui s'appelle L'Envolée, donc on en a déjà parlé, journal anticarcéral, et pour parler justement du favoritisme qui était exercé par certaines surveillantes et par le directeur donc Goncalves, et de l'ambiance pourrie et des conflits que ça générait entre les détenus. Et donc, ces pressions au quotidien, c'est par exemple le fait d'imposer à quelqu'un une co-détenue dans sa cellule, alors qu'elle demande depuis des mois à être seule en cellule. Donc là, elle parle en fait de ce qu'elle a vécu là-bas et de ce qu'elle a constaté aussi autour d'elle. Le fait de demander un rendez-vous avec une personne de l'administration pénitentiaire pour évoquer ou trouver une solution à des problèmes et de se faire balader systématiquement par des « mais oui » et de jamais avoir le rendez-vous en question qu'on demande. Le fait de se faire balloter d'une cellule à une autre en permanence. Le fait de demander un transfert dans un autre centre de détention depuis des mois et d'entendre la direction dire que ce transfert-là, il va arriver et d'apprendre au dernier moment qu'en fait, le dossier de demande de transfert, il n'a jamais été fait. Le fait de faire une demande de formation qui est appuyée par les intervenants sociaux mais qui reste sans réponse de la part de l'administration pénitentiaire parce qu'ils veulent garder les détenus qui sont intéressantes pour eux dans les ateliers de travail et que pour ça, ils bloquent les demandes de transfert qui sont faites, les demandes de formation, etc. Le fait, pour des surveillantes, de descendre une personne trop tard au moment du téléphone ou alors de la descendre exprès au même moment que quelqu'un d'autre pour faire monter les tensions entre les détenus. Le fait, pour des surveillantes, de dire au psychologue que la détenue refuse d'aller à son rendez-vous alors que c'est pas vrai, que la détenue n'a pas été prévenue et que ça, c'est un fait qui peut lui être reproché par la suite. Le fait, pour des surveillantes, pendant les distributions de rations de bouffe, de privilégier certaines détenues et pas d'autres. Le fait de provoquer des moments de conflit entre des détenus qui peuvent pas se blairer, en les envoyant dans les douches au même moment, en riant au loin quand ça part en bagarre entre elles, en envenimant les choses, en allant raconter qu'une telle a dit ça, une telle a dit ça, blablabla. Et tous ces faits sont couverts par le directeur. Donc le directeur, c'est la pauvre victime de l'amour, n'est-ce pas ? Et ces faits-là, ça exacerbe au maximum les tensions en détention. Avec celles qui acceptent de jouer le jeu de l'administration pénitentiaire parce qu'elles acceptent ça et qu'elles profitent des privilèges qui leur sont octroyés et celles qui le refusent. Et donc, en avril, Kaoutar, elle écrit au contrôleur général des lieux de privation de liberté pour parler de certains de ces faits et c'est un extrait de ce courrier qu'on va lire maintenant.
Ce comportement de certaines surveillantes à notre égard est une forme de harcèlement moral et d'abus de pouvoir. Tous ces faits en eux-mêmes, pris un par un, hors contexte, ne signifient peut-être rien. Mais accumulés à la chaîne en si peu de temps, c'est nuisible pour n'importe qui. Une personne fragile ne supporterait pas très longtemps ce comportement avant d'attenter à sa vie, comme c'est déjà arrivé ailleurs dans d'autres lieux d'enfermement. Car c'est la détenue qui se retrouve enfermée le soir en ruminant toutes ces brimades subies. Ces comportements sont dangereux, car ils touchent au moral, à la dignité et au respect de chacun d'entre nous. C'est une pression quotidienne, continue et continuelle. Ce n'est pas une violence physique, mais psychologique, ce qui la rend en soi beaucoup plus dangereuse, car elle ne laisse pas de traces.
Donc évidemment, le fait que ces manières de faire des surveillantes et de l'administration pénitentiaire, elles soient révélées publiquement par des lettres et qui sont reprises notamment dans des journaux qui circulent comme l'envolée. Le fait que Kaoutar, elle n'accepte pas de rentrer dans ce petit jeu, le pauvre directeur, victime de l'amour, va tenter de lui faire payer ça. Plus précisément, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'administration pénitentiaire, elle veut l'utiliser pour son atelier de travail. Donc c'est un central téléphonique pilote qui a été inauguré en grande pompe par Michel Alliot-Marie dans une grande messe hypocrite au possible. Donc Kaoutar, elle raconte à nouveau comment ça s'est passé ce moment-là.
On fait en sorte que les cellules soient propres, jusqu'à demander aux détenus volontaires de nettoyer les placards, tout le mobilier. Depuis une semaine, un service général homme est spécialement dédié pour repeindre les murs, aussi dégueulasses qu'ils étaient, poser du lino, vérifier l'électricité. On nous a mis le micro-ondes dans les cellules. Bref, tout ça me désole et confirme bien l'idée que l'on a de la paix, cette administration hypocrite, opportuniste et malhonnête, qui ne fait que mentir et donner une image de la prison qui ne la reflète pas du tout.
Donc, à ce moment-là, Kaoutar, elle démissionne parce qu'elle se rend compte justement que le fait de la garder, enfin, tant qu'elle continue à bosser, en fait, c'est hyper pratique pour l'administration pénitentiaire qui veut la garder dans ce central téléphonique-là et que c'est pour ça qu'il bloque, en fait, sa demande de transfert. Elle démissionne, elle est fatiguée, elle est soumise à de nombreuses pressions et elle consulte le psychiatre qui lui prescrit le calme. Mais au moment où elle retourne dans sa cellule, l'administration pénitentiaire lui a imposé une autre co-détenue, alors qu'elle demande à être seule depuis le début. Donc elle refuse de rentrer dans sa cellule. Et là, le directeur, la pauvre victime de l'amour, et trois surveillants gradés essayent de la faire rentrer de force. Ils la soulèvent, ils tentent de la balancer à l'intérieur. Elle résiste, elle se débat, elle traite le directeur de menteur et de magouilleur. Et pour ça, elle écope de jours de mitard. Ensuite, elle est placée dans une cellule de 6 personnes, alors qu'elle dit depuis le début qu'elle veut être seule. Quand elle sort pour aller en promenade, elle tombe dans un traquenard. il y a plusieurs prisonnières qui travaillent au service général qui l'attendent dans un escalier pour la passer à tabac. Elle est frappée à terre, à coups de pied dans le visage, alors qu'elle vient d'être opérée de la mâchoire et que les agresseuses le savent. À sa sortie du quartier disciplinaire, donc mitard, qui est ordonné par le psychiatre, le directeur, la malheureuse victime de l'amour, lui dit « Ah, vous avez voulu jouer avec la psychiatrie ? Eh bien, vous allez voir. » Et elle est transférée à la maison d'arrêt de Fresnes, puis à l'UMD de Villejuif. Donc, c'est Unité pour Malades Difficiles. C'est un mélange entre l'hôpital psychiatrique et la prison, hyper trash, hyper horrible. Donc ses proches apprennent qu'elle a été transférée là-bas et ils vont se batailler vraiment fort pour avoir de ses nouvelles et la sortir de là. Et de son passage à l'UMD, elle va garder des séquelles conséquentes du traitement hyper dégradant qu'elle a vécu là-bas et du cachetonnage. Voilà, donc au-delà des histoires de coucherie qui ont été relatées dans les médias, ce qui se passe à ce moment dans cette tôle, ça illustre assez bien ce que ça peut signifier, en fait, l'expression de traitement de faveur avec celles et ceux qui en profitent et ce que ça signifie, en fait, pour celles et ceux qui les refusent. Et donc, pour terminer, on va passer à un dernier extrait d'une lettre de Kaoutar où elle parle justement de ça, en fait, des compromis ou de l'intégrité.
Je suis en mode dégoûtée, mais vraiment. J'ai fait mon courrier pour confirmer que je voulais partir à Rennes. Le greffe me répond que mon dossier est en cours, ça c'est jeudi. Le vendredi matin, je vois la SPIP.
Alors la SPIP, c'est une personne du service pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales qui travaillent en prison.
Elle me dit qu'on ne lui a rien transmis comme dossier. Elle-même ne comprend pas, car c'est elle la première qui doit faire le nécessaire. Allez comprendre. Depuis, j'ai posé ma démission. Je ne veux plus participer et cautionner cette hypocrisie générale. Je ne veux plus qu'on m'utilise. En restant dans cet atelier, je suis sûre et certaine qu'ils auraient freiné ma demande de transfert. Tes états d'âme, ils s'en foutent. Ici, ils ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Dernière chose, je m'adresse à tous les détenus qui croient que ce sont les surveillants qui vont les libérer de prison. Et je parle en connaissance de cause. À toutes les détenues qui passent leur temps dans les bureaux dégradés et qui prennent parti pour les surveillants alors qu'un détenu comme toi en face se bat pour ses droits. Franchement, la roue, elle tourne. N'oublie jamais la ligne que tu ne dois pas franchir entre elle et toi. Le jour où il y aura un problème, quelles que soient vos relations de copinage, malsaines quelquefois, elles mettront leur casque, te soulèveront et fermeront la porte comme elles le font chaque soir.
Voilà, et alors pour terminer cette émission, je voulais juste vous parler d'un événement qui va se passer les vendredi 4 et samedi 5 mai prochains. Donc ça s'appelle Du son contre la prison et donc le but de cet événement c'est à la fois de faire parler de la prison à l'extérieur avec un positionnement clairement anticarcéral, d'organiser un concert de rap conscient qui soit diffusé en direct dans les tôles, mais aussi de faire des liens entre l'intérieur et l'extérieur et aussi entre les différentes prisons de France, de Suisse et de Belgique. Donc je vais vous lire un court extrait du texte de présentation de l'événement qui explique un peu la démarche dans laquelle c'est organisé. Du son pour rappeler que l'enfermement à visage humain n'existe pas. Les nouvelles prisons aseptisées sont tout aussi insupportables et inhumaines que les vieilles prisons insalubres. Du son contre l'enfermement et son monde, car les prisons sont les miradors de la société actuelle. Le capitalisme a besoin de gens dociles, sa continuation suppose le maintien par l'État d'un contrôle serré de la population, de la carte vitale au pôle emploi, en passant par la biométrie jusqu'aux milices citoyennes. En attaquant le monde carcéral, nous voulons en finir avec toutes les prisons qui peuplent notre quotidien. Du son pour renforcer les liens entre l'extérieur et l'intérieur, la radio étant le meilleur moyen d'échapper à la censure de l'administration pénitentiaire. Si la prison fait peur, c'est parce qu'elle isole et divise. En proposant un concert consacré aux prisonniers et prisonnières, nous souhaitons briser cet isolement et créer un moment d'unité via les ondes. Du son pour contribuer au développement de la scène rap conscient, faire jouer les groupes critiquant le monde carcéral et partageant notre solidarité avec les prisonniers et les prisonnières. Pour montrer qu'il est possible de faire un concert avec des groupes intéressés par la démarche et non par le fric. Parce que le rap, ce n'est pas que de la musique, mais aussi des idées. Alors cet événement, il va avoir lieu en deux temps. D'abord, le vendredi 4 mai, il y aura une discussion, un échange d'expériences sur les luttes et résistances à l'intérieur et à l'extérieur des prisons. Ça va se passer à la Gueule Noire, 18 rue du Mont à Saint-Étienne. Et du coup, il y aura des anciens détenus, des anciennes détenues, des membres de collectifs, de journaux ou d'émissions anticarcérales. Et puis, tous ceux et toutes celles qui auront envie d'y participer. Et le lendemain, il y aura donc un concert de rap avec les groupes Fils du Bitume, Tidebox, RPZ et DJ Larry. Et ce sera toujours à Saint-Étienne, à Ursa Minor, 11 rue de Les Galeries. Et donc l'idée, c'est que ce soit diffusé en direct sur une dizaine de radios, et donc pour pouvoir être écouté dans les tôles de, par exemple, de Lyon, de Paris, de Marseille, de Bruxelles, de Lille, enfin de plein d'autres villes, et notamment à Grenoble. Donc ce concert sera diffusé en direct sur Radio Kaléidoscope, donc 97 FM, de 21h à minuit. Alors on vous invite fortement à suivre ce concert, qui est une tentative assez unique de faire un événement en direct dans plein de prisons en France, en lien avec l'extérieur. Et aussi l'idée de cette soirée, c'est que les prisonniers et prisonnières puissent se faire passer des messages d'une tôle à une autre. Alors on vous invite à nous faire parvenir, si vous avez envie, des lettres, des témoignages ou des messages que vous auriez envie de faire circuler dans les prisons de France ce soir-là. Et donc vous pouvez nous envoyer tout ça donc à notre adresse courrier Les Murons des Oreilles, Radio Kaléidoscope, BP 422, Grenoble 38018. Je répète, Les Murons des Oreilles, Radio Kaléidoscope, BP 422, Grenoble 38018. Et si vous voulez plus d'informations sur l'événement en lui-même, donc c'est possible de nous contacter, nous, donc à l'adresse que je viens de donner ou à l'adresse mail lesmurs@riseup.net, lesmurs tout attaché @riseup.net. Et aussi, si vous avez internet, vous pouvez aller envoyer un mail à l'adresse du son contre la prison tout attaché @yahoo.fr ou vous rendre sur le MySpace du son contre la prison. C'est la fin de cette émission, et avant de partir, on voulait juste vous donner une information que maintenant il y a un blog Les Murons des Oreilles qui existe. Donc c'est http://lesmurondesoreilles.noblogs.org. Et aussi pour vous dire que, donc, comme d'habitude, tous les un mercredi sur deux, il y a un atelier d'écriture aux détenus qui se fait au local autogéré à Grenoble, 7 rue Pierre-Dupont. Et donc c'est ce soir à partir de 20h. Salut.
Salut.
Salut.